En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La conférence du jour va être réalisée par M. Gilles Berset. Cher monsieur, vous êtes diplômé de l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, docteur de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne, et vous avez effectué l'essentiel de votre carrière à la Banque de France, où vous êtes encore aujourd'hui. Vous y êtes entré comme élève adjoint de direction à l'Institut de formation en 1983-84, avant de devenir adjoint de direction en poste au service d'études et de recherche de la centrale de bilan à la direction générale du crédit de 1984 à 1991, puis chef adjoint du service d'études macroéconomiques sur la France à la direction générale des études de 1991 à 1992. Après un bref passage à l'INSEE, où vous occupez le poste de chef de division croissance et politique macroéconomique à la direction des études et des statistiques économiques, vous revenez à la Banque de France comme chef du service d'études macroéconomiques sur la France à la direction générale des études entre 1995 et 1997. Vous êtes ensuite conseiller scientifique et membre du Conseil d'analyse économique entre 1997 et 2000. Vous le serez de nouveau entre 2006 et 2012. Dans le même temps, vous êtes en mission auprès de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité. En 2000, vous retrouvez la Banque de France. Tout d'abord, adjoint au directeur des études économiques et de la recherche de 2000 à 2005, directeur des analyses macroéconomiques et des prévisions de 2005 à 2008, directeur des analyses microéconomiques et structurelles de 2008 à 2014 et depuis janvier 2015, adjoint au directeur général des études et des relations internationales. Parallèlement, vous enseignez depuis 1995 en qualité de professeur associé d'économie à la faculté de sciences économiques de l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes également membre depuis 2006 du comité directeur de l'Association française de sciences économiques que vous avez présidé en 2012-2013. Vous êtes aussi membre du comité de rédaction de la revue Futurible depuis 1993. Vous avez été 12 ans, de 2004 à 2016, membre du comité d'orientation de la revue Problèmes économiques qu'édite toujours la Documentation française. Spécialiste reconnu de l'étude du marché du travail, vous avez publié, le plus souvent en collaboration, de nombreux rapports et ouvrages. Je n'en citerai que quelques-uns. Essai sur les nouvelles politiques d'offres, la réduction, réorganisation du temps de travail, les situations de chômage mixte, avec Michel Catina et Dominique Taddei. Temps de travail, mode d'emploi, avec Dominique Taddei en 1994. Réduire le temps de travail, les 35 heures, avec Dominique Taddei en 1998. Le temps partiel en France, un rapport du CAE en 1999. Productivité et croissance, avec Patrick Artus, encore en rapport du CAE en 2004. Les leviers de la croissance française, avec Philippe Aguillon, Élie Cohen et Jean Pisani-Ferry, un rapport du CAE de 2007. Productivité et croissance en Europe et aux États-Unis en 2007. Salaire minimum et bas revenus, comment concilier justice sociale et efficacité économique, avec Pierre Cahuc et André Zilberberg, rapport du CAE de 2008. Refondation du droit social, concilier protection des travailleurs et efficacité économique, avec Jacques Barthélémy, rapport du CAE de 2010. Le partage de la valeur ajoutée, en collection avec Philippe Askenazi et Arnaud Sylvain, La Découverte, édition Repère, en 2011. Refonder le droit social, avec Jacques Barthélémy, la Documentation française, collection du CAE en 2011 et une nouvelle édition en 2013. Changer de modèle en collaboration avec Philippe Aguillon et Élie Cohen en 2014. Ce livre a reçu le prix Zérilly Marimo de notre académie. Enfin, en début de cette année, travailler au XXIe siècle, en finir avec l'ubérisation. Cette liste de quelques-uns de vos travaux vous permet à chacun de comprendre pourquoi vous avez accepté de prendre la parole pour répondre à la question que nous vous avons posée. Quelle réforme du Code du travail pour améliorer la compétitivité et la croissance de l'économie et réduire le chômage? La parole est à vous.
Merci, merci beaucoup. Flatté et ému d'ailleurs, parce que je parle devant deux de mes anciennes hautes autorités à la Banque de France. Alors les travaux que je vais essayer de synthétiser rapidement sont des travaux essentiellement conduits avec Jacques Barthélémy, éminent juriste que vous connaissez tous, et qui ont été publiés dans leur dernière forme dans deux ouvrages publiés par Odile Jacob, l'un en 2015 qui s'appelle « Réformer le droit du travail » et l'autre récemment, il y a deux mois, toujours chez Odile Jacob, donc, qui s'appelle « Travail au XXIe siècle, l'ubérisation de l'économie la fin de l'ubérisation de l'économie, bien sûr ». Je vais commencer par quelques mots introductifs. Pour essayer de montrer, d'évoquer qu'un droit social trop réglementaire, et quand on parle de droit social très réglementaire, on pense bien sûr, hélas, à notre pays, peut être un problème à la fois pour la protection des travailleurs et pour l'efficacité économique. Je présenterai ensuite quelques figures caractérisant, à nos yeux, c'est pas un eau de majesté, mais c'est une œuvre commune avec Jacques Barthélémy, caractérisant à nos yeux la situation française, pour ensuite aboutir à ce qui est le fondement, le socle des propositions de réforme, de refondation du droit social que nous avons publié, que nous avons diffusé et qui ont inspiré plusieurs réformes, dont la récente loi El Khomri. Je zoomerai un petit peu sur la question des différents niveaux d'élaboration des normes en matière de droit social, leur articulation, pour enfin finir sur une question très particulière donc que nous avons traitée dans notre dernier ouvrage, la question du droit de l'activité professionnelle et de l'ubérisation, pour prendre un mot maintenant commun, de l'économie. Alors d'abord, les effets d'un droit social trop réglementaire. Les effets d'un droit social très ou trop réglementaire, c'est bien sûr de brider l'espace de la négociation et de la décision des partenaires sociaux. Et d'ailleurs, il est utile de rappeler que dans plusieurs pays, les partenaires sociaux eux-mêmes, et là je parle même des représentants des salariés, des syndicats de salariés, s'opposent parfois à l'intervention publique, réglementaire, dans certains domaines. Par exemple, au Danemark ou en Italie, ce sont les syndicats de salariés qui s'opposent à la création d'un salaire minimum national, disant au pouvoir public, non, ne nous prenez pas notre boulot, c'est à nous de faire ce genre de choses. C'est à nous de faire ce genre de choses, et si vous instituez un salaire minimum national, eh bien on aura moins à faire, et ça contribuera bien sûr à la désyndicalisation, à la perte d'audience des syndicats. Mais au-delà de ça, ce que nous montrons dans nos travaux, c'est que une intervention trop réglementaire bride la réalisation des meilleurs compromis locaux, ce qu'on pense être les compromis gagnant-gagnant, et que cette forte intervention réglementaire donc est préjudiciable à la fois au gain de performance et à l'efficacité économique d'une part, et puis deuxièmement à la protection même des travailleurs et à l'équilibre sur le marché du travail. Et il n'est pas inutile de préciser à ce moment précis que les travailleurs d'ailleurs ne ressentent pas nécessairement comme protectrices une abondance de règles réglementaires censées les protéger. Il y a un excellent travail qui avait été publié il y a quelques années par Andrew Clark et Postelvinet qui montrait que sur la base de l'exploitation de résultats d'enquêtes réalisées en Europe, hein, sur pas mal de pays européens, eh bien que le sentiment de protection des salariés était décroissant avec les rigidités formelles associées au licenciement. Plus les procédures de licenciement étaient fortes, rigides, exigeantes, et plus les salariés se ressentaient, ou moins les salariés plutôt se ressentaient comme protégés en termes de sécurité de l'emploi. Donc vous voyez, ce contraste était très fort, et l'interprétation qui était donnée de ces résultats était que le passage, si j'ose dire, par la case chômage était un passage beaucoup plus douloureux quand la fluidité sur le marché du travail est faible, beaucoup plus long, beaucoup plus pénible pour en sortir, et ce qui explique donc ce sentiment des salariés par rapport au faible caractère protecteur d'une réglementation abondante dans le droit du licenciement. Et puis, il n'est pas inutile de rappeler que les principaux pénalisés, c'est les entrants sur le marché du travail. Principaux pénalisés par une réglementation très forte sur le marché du travail, ce sont les entrants, et parmi les entrants, bien évidemment, les jeunes. Alors j'illustre ça ici par deux graphiques. Vous voyez, sur ce premier graphique est représenté sur l'axe des abscisses, sur l'axe horizontal, un indicateur de rigueur procédurale pour ce qui concerne le licenciement. C'est un indicateur construit par l'OCDE pour l'année 2013, et en ordonnée donc pour la même année, puisque l'indicateur des abscisses n'a pas été actualisé depuis, pour la même année, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de personnes en emploi parmi la population âgée de 15 à 64 ans, c'est les petits triangles verts, ou parmi les jeunes, c'est les petits carreaux bleus. Et vous voyez une relation négative. Relation négative avec une corrélation très très nette, et plus forte encore pour les jeunes. Plus ces rigueurs, en quelque sorte procédurales, des licenciements sont fortes, plus le taux d'emploi est faible. Hein, chaque point représente un pays ici de l'OCDE. Et cette relation, encore une fois, est particulièrement forte pour les jeunes. Et puis, une autre conséquence de ces rigueurs associées au licenciement, est bien représenté par ce graphique. Sur l'axe des abscisses, donc toujours la rigueur de ces l'épaisseur de ces procédures de licenciement, concernant cette fois uniquement les CDI, et puis en ordonnée, le taux de précarité, qui est ici la proportion parmi les personnes en emploi de celles qui sont en CDD ou en intérim. Et vous voyez que cette proportion est croissante, avec les rigueurs associées au licenciement de CDI, et assez fortement croissante, même concernant les jeunes, c'est les petits carrés bleus. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut comprendre assez aisément, que le message de ces deux graphiques. Dans un travail récent, pour celui-là, on a montré avec des co-auteurs, j'essaie de revenir en arrière, je ne sais pas comment on revient en arrière ici. Voilà, on a montré avec quelques co-auteurs que les rigueurs associées au licenciement étaient ressenties par les chefs d'entreprise comme une augmentation du coût du travail, fondamentalement. Et que cette augmentation ressentie du coût du travail liée à cette abondance procédurale, eh bien, les amenait à substituer du capital au travail. Et donc le ratio capital-travail est assez élevé en France, qui pénalise bien sûr l'emploi, mais ce capital est de moins bonne qualité. C'est un capital pauvre en nouvelles technologies et en recherche et développement. C'est un travail très récent qu'on a fait paraître. Et puis, évidemment, pour cette relation avec le taux de précarité, ça se comprend assez aisément. Quand les rigueurs procédurales des licenciements de CDI sont assez fortes, eh bien, elles sont contournées par un recours plus fréquent à l'emploi précaire de la part des entreprises. Alors, quelques constats concernant la France, décidément. Quelques constats concernant la France. D'abord, et j'essaye de revenir encore une fois en arrière. Non, c'est dans ce sens-là. D'abord, le taux de chômage. On vit en France avec le sentiment que le taux de chômage est important parce qu'on a traversé des crises économiques assez fortes. Ce qu'on constate quand on observe la situation des principaux pays industrialisées ici, c'est que les situations de chômage massif sont assez rares. Sont assez rares et sont le fait principalement des pays d'Europe du Sud, Grèce, Espagne, Portugal, Italie, et puis la France. Et s'ajoute ici à ce concert des 5 ou 6 premiers pays, la République slovaque. Mais que sinon, la majorité des pays connaissent des taux de chômage assez bas. Et pourtant, ces pays-là ont traversé la crise économique comme nous. Ils ne sont pas restés dans ces situations de chômage massif pendant plusieurs décennies. Alors ce constat est assez important à faire, bien évidemment, parce que quand des craintes sont agitées par rapport à l'ubérisation de l'économie qui tuerait déjà beaucoup d'emplois, l'ubérisation de l'économie est plus avancée dans d'autres pays que la France et d'autres pays qui sont en plein emploi. Quand on entend dire que la crise économique est la principale responsable du chômage massif qu'on connaît en France, non, d'autres pays ont traversé la crise économique, ces pays sont divers et variés, et connaissent des taux de chômage très enviables de notre point de vue. Et donc, évidemment, la question est de savoir pourquoi on connaît ce taux de chômage élevé. Et quand on essaye de caractériser la France par différentes figures, alors je vais essayer de le faire, si j'y arrive, il est un appareil très sensible. Voilà. On voit d'abord que la France se caractérise par un droit social très réglementaire quand on se compare, par exemple, aux autres pays concernant des indicateurs synthétiques qui ont évidemment leur fragilité, qui sont évidemment critiqués, mais qui sont élaborés avec des méthodologies identiques sur différents pays. Et par exemple, les indicateurs comme ceux que j'ai présentés tout à l'heure, de rigueur procédurale associée au licenciement, eh bien, ces indicateurs mettent la France en haut, en termes de procédure, de lourdeur des procédures, bien évidemment, à un extrême des pays les plus industrialisés. Notre droit social dans ce domaine-là est très réglementaire. L'analyse de domaines spécifiques, comme le droit de la durée du travail, qui est en France d'une profusion considérable, ou le salaire minimum, il faut souligner que la France se singularise par un salaire minimum dont les modalités, par exemple, de revalorisation n'ont pas d'équivalent dans tous les autres pays industrialisés par leur caractère contraignant. Eh bien, la France, ici encore, se singularise par un droit social très, très réglementaire. Dans beaucoup d'autres pays, les contraintes associées à la durée du travail, au salaire minimum ou à beaucoup d'autres domaines du droit du travail sont beaucoup plus réduites. Et puis, on s'était amusé avec Jacques à comparer simplement le volume du Code du travail et son amplification sur les dernières décennies. Le Code du travail faisait 950 pages il y a pas mal d'années maintenant, en 1974. Il dépassait déjà 3000 pages en 2013. Il n'y a aucun autre pays qui se trouve dans cette situation. Et cette situation, comme je le disais, aboutit à un très faible espace décisionnel laissé aux partenaires sociaux et, associé à ce très faible espace décisionnel, un très faible taux de syndicalisation. Très faible taux de syndicalisation, vous voyez ici, j'ai représenté l'ensemble des pays de l'OCDE en termes de taux de syndicalisation. La France, fait partie avec la Turquie et l'Estonie du groupe de pays dans lequel le taux de syndicalisation est le plus faible. Alors bien sûr, on répond souvent, oui, mais en France, le taux de couverture conventionnelle est très élevé. Ce dont témoigne ce graphique, vous voyez, dans lequel je représente en abscisse le taux de couverture conventionnelle et en ordonnée le taux de syndicalisation. Généralement, dans les pays de l'OCDE, plus le taux de syndicalisation est élevé, plus le taux de couverture conventionnelle est fort. La France apparaît ici comme un outlier, un point un petit peu particulier, avec un très faible taux de syndicalisation, je l'ai dit, et un très fort taux de couverture conventionnelle. Comment on peut expliquer ce contraste? Eh bien, tout simplement par un arsenal de dispositions et entre autres par les procédures d'extension et d'élargissement qui aboutissent à faire que des salariés d'entreprises qui n'ont pas été directement partie prenante dans les négociations de conventions de branche peuvent être ouverts par ces procédures d'élargissement ou d'extension par ces conventions collectives. Et évidemment, c'est le recours quasi systématique à ces procédures aboutit à une certaine déresponsabilisation et des salariés et des entreprises concernées. Alors, quelques figures, juste pour vous illustrer la situation française. Je reprends ici, sur 2-3 graphiques, les résultats d'une enquête qui ont été réalisés par l'Eurosystème en 2014, sur les années 2010 à 2013. Et par exemple, ici, on demandait aux entreprises si certains facteurs étaient des obstacles à l'embauche de personnes en contrat permanent, c'est-à-dire en contrat à durée indéterminée. Eh bien, vous voyez que pour l'incertitude économique, la France est le pays dans lequel cet obstacle est cité le plus souvent par les entreprises. Et puis, concernant l'incertitude réglementaire, ici l'incertitude législative, c'est en bleu foncé, la France fait partie dans lequel cet élément est évoqué aussi très très souvent comme un obstacle très fort à l'embauche de personnes en contrat à durée indéterminée. Si on regarde maintenant ce que les entreprises répondent quand on leur demande est-ce que les coûts de licenciement ou est-ce que les coûts d'embauche sont des obstacles à l'embauche de personnes en contrat à durée indéterminée, eh bien on voit que la France se situe encore une fois parmi les pays, et c'est l'avant-dernier pays juste avant la Belgique, dans lequel les coûts de licenciement sont évoqués comme un obstacle à l'emploi de personnes en CDI. Ça rejoint ce que je vous disais, bien évidemment, précédemment. Autre renseignement, est-ce que vous ressentez, suite à un choc de demande, de forte rigidité à la baisse des rémunérations des salariés, la France est le pays dans lequel les entreprises répondent le plus souvent effectivement qu'elles font face à des rigidités à la baisse des salariés. Ça explique pourquoi en France il y a une forte préférence pour le salaire. Enfin, ça contribue à expliquer pourquoi en France il y a une forte préférence pour le salaire et moins pour l'emploi que dans d'autres pays. On y reviendra peut-être quand on évoquera la situation allemande et l'exemple des accords de maintien de l'emploi. Alors, une autre caractéristique française, c'est la mauvaise qualité des relations sociales. Alors, pour illustrer la mauvaise qualité des relations sociales, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose de mobilisable. Ici, j'ai repris ce qui est souvent mobilisé, c'est des réponses d'entreprises internationales à une enquête qui est faite par le World Economic Forum et dans laquelle on demande aux entreprises de noter en quelque sorte la qualité des relations sociales. Et vous voyez que la France, c'est la courbe en noir. La France se bagarre avec l'Italie sur la dernière place en termes de qualité des relations sociales. Qualité des relations sociales qui sont considérées comme très nettement supérieures dans un pays, par exemple, comme l'Allemagne, au Royaume-Uni aussi, et au-delà encore, en Suisse. Donc, mauvaise qualité des relations sociales, dont témoigne la conflictualité. Conflictualité qui est ici mesurée par le nombre de journées perdues par an pour grève pour 1000 salariés. La France se situe dans le groupe de pays dans lequel ce nombre, groupe de pays industrialisés, dans lequel ce nombre de journées perdues pour fait de grève est le plus élevé. Supérieur à 100, vous voyez, en moyenne, 100 jours par an pour 1000 salariés, en moyenne sur la période 2005-2012, avec le Danemark. Ensuite, bien en dessous, il y a la Finlande, Belgique, Espagne, et puis tout en bas, vous voyez, moins de 25 jours, l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas et les États-Unis, qui se caractérisent par une conflictualité mesurée par cet indicateur, hein, qui vaut ce qui vaut, mais qui n'est pas sans pertinence. Ces pays-là se caractérisent par une conflictualité beaucoup plus faible. Alors, sur la période la plus récente, cette conflictualité, enfin, cet indicateur de conflictualité, se serait abaissé. On serait passé, sur les 3 dernières années, sur l'intervalle 50 à 100 jours perdus en moyenne chaque année pour 1000 salariés du fait de grève. Mais même en passant de 50 à 100 jours, vous voyez qu'on reste très très largement de certains autres pays ici, comme entre autres l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas ou les États-Unis, 4 pays qui bénéficient d'une situation de plein emploi. Et puis, quelque chose qui n'est pas inintéressant de signaler, quand j'évoquais tout à l'heure la faible syndicalisation des salariés français, on peut se demander pourquoi, spontanément, ils ne se syndiquent pas davantage. Alors d'abord, il y a évidemment l'espace du choix, l'espace d'intervention des partenaires sociaux et de décision des partenaires sociaux qui est très réduit. Et puis, j'ai mobilisé ici les résultats d'une enquête réalisée à différentes époques. Je crois même que les résultats de la dernière enquête sont sortis il y a très peu de temps, réalisée par Ténès Sofres, où on demande aux salariés pourquoi ils ne se syndiquent pas. Et ce qu'on voit, c'est que les réponses portées faites à cette question, alors les salariés peuvent répondre à plusieurs questions simultanément, c'est pour ça que la somme des réponses en pourcentage dépasse 100%, mais on voit que les deux principales réponses, c'est en gros, les syndicats ne répondent pas à notre attente, d'une part, et puis à égalité avec une plus forte proportion dans certaines années ou une plus faible proportion à d'autres années d'enquête, la peur des représailles. Donc à la fois un manque en quelque sorte de présence effective des syndicats par rapport aux attentes des salariés, cette présence ne répond pas nécessairement aux attentes des salariés, et puis par ailleurs, la peur des représailles qui témoigne bien évidemment d'un climat social très, très particulier, en tout cas pas serein du tout. Et puis, dernier élément que je voulais évoquer, la multiplicité en France des IRP, c'est-à-dire des institutions représentatives du personnel, hein, dont la compréhension est particulièrement dure, entre autres pour des investisseurs étrangers, entre les délégués syndicaux, les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le CHSCT, etc. Et avec une multitude de seuils concernant le rôle, l'existence d'abord, est obligatoire, et le rôle de ces différentes IRP. Et les obligations d'information et de consultation par rapport à ces institutions de représentation du personnel que j'ai compté être au nombre de 17. Alors, on a heureusement en France bénéficié de quelques vagues de simplification, la dernière consistante ayant été portée par la loi Rebsamen, qui permet à l'initiative du chef d'entreprise pour les entreprises de moins de 300 salariés ou par accord collectif pour les entreprises de plus de 300 salariés de regrouper ces institutions représentatives du personnel. Néanmoins, chacun s'accorde à penser que la chose est très lourde en France, et malgré son langage très policé, très pondéré, vous voyez le bilan de la négociation collective, écrivait « Les grandes entreprises sont concernées par des obligations en matière d'IRP qui peuvent introduire une certaine complexité. » Dans le langage de la Direction Générale du Travail, c'est quelque chose de très lourd, vous voyez, ça faut décoder un peu, mais c'est quelque chose de très lourd. Et c'est un domaine qui est difficile à réformer, et la difficulté de réformer cette chose-là, à l'initiative des partenaires sociaux, j'y reviendrai un petit peu, a été bien illustrée par l'échec, en janvier 2015, de la négociation interprofessionnelle sur, justement, le dialogue social et la simplification des modalités du dialogue social. Les partenaires sociaux, vous le savez, ne sont pas arrivés à ce moment-là à un accord. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça signifie que les simplifications dans ce domaine doivent être faites, envisagées à l'initiative des pouvoirs publics, ce qui n'empêche pas évidemment des consultations, mais qu'il ne faut pas attendre au niveau interprofessionnel des initiatives fortes et consensuelles des partenaires sociaux. Alors, ce que j'ai représenté ici, j'ai repris un graphique qui avait été fait par la Direction Générale du Trésor, publié récemment par la Direction Générale du Trésor. C'est le coût, en pourcentage du coût salarial total dans une entreprise, le coût simplement des délégations horaires accordées aux institutions représentatives du personnel. Alors, en bleu et en rouge, c'est le cas de la France, et en vert, c'est l'Allemagne. Eh bien, vous voyez que l'Allemagne a des coûts liés aux délégations horaires associées aux obligations pour les institutions représentatives du personnel. Ce coût est inférieur à 0,5% du coût salarial total dans les entreprises. En France, c'est quelque chose de très, très supérieur. Alors, pourquoi il y a plusieurs coups ? Eh bien, justement, ce sont les vagues de réformes dont la France a bénéficié, je dirais bénéficié, parce que le coup en a été de ce fait associé. Mais vous voyez que pour des entreprises de taille, moyenne, entre 50 salariés ici et 200 salariés, on n'est encore pas loin de 1,5%. C'est des choses quand même très, très chères. C'est un élément de compétitivité. Il n'y a pas simplement la lourdeur, il y a aussi des éléments de coût de ce type-là qui interviennent par rapport à notre principal partenaire. Alors, face à ces constats, quelle stratégie de réforme, de refondation peut-on envisager ? Première stratégie de réforme et de refondation qu'on peut envisager, c'est une approche qu'on a qualifiée, excusez-moi du mot, parce qu'en France c'est souvent un gros mot, mais une stratégie libérale consistant à dire on réduit l'espace du droit réglementaire pour laisser plus d'espace décisionnel aux partenaires sociaux par la voie d'accords collectifs. Le problème, à nos yeux, à Jacques Barthélémy et moi, c'est que ce retrécissement, en quelque sorte, de l'espace réglementaire correspond à un affaiblissement de la fonction protectrice du droit social, et rien ne garantit l'appétence des partenaires sociaux, et entre autres ici le partenaire employeur a évidemment comblé cet espace, l'espace ainsi libéré par un droit d'essence conventionnel. C'est pour ça que cette voie nous paraît vaine. Une deuxième voie, c'est évidemment l'appel au développement du droit conventionnel, mais cet appel au développement du droit conventionnel nous semble une stratégie naïve et ineffective. Pourquoi ? Parce que les acteurs n'y sont pas nécessairement prêts, et puis l'espace à l'heure actuelle disponible pour qu'ils décident en quelque sorte est très faible et très restreint. Donc on peut les appeler à décider, mais décider sur un espace très restreint, c'est évidemment peu motivant. Et troisième voie, qui est celle que nous préconisons dans des travaux, sur les travaux que nous avons publiés sur les 10-15 dernières années, c'est de procéder simultanément à une contraction du droit réglementaire et un développement du droit conventionnel, parce que le développement du droit conventionnel chasserait ou réduirait l'espace du droit réglementaire. Comment ? Eh bien, dans l'approche qui était la nôtre originellement, c'est l'idée que il serait bien d'autoriser le droit conventionnel, le droit contractuel, à déroger à une multitude de règles inscrites dans le code du travail. C'est-à-dire que des normes conventionnelles pourraient se substituer aux normes réglementaires du code du travail. En l'absence de l'élaboration de ce tissu conventionnel, le code du travail, les normes réglementaires continueraient de s'appliquer. Cette approche serait cohérente, bien sûr, avec la culture française de civil law. Et cette ouverture dérogatoire connaîtrait néanmoins certaines limites. Premier type de limite, c'est ce qu'on appelle les dispositions d'ordre public, c'est-à-dire les principes qui ont bien été, caractérisés par Badinter et Lioncan dans leur ouvrage en 2015. Et puis un autre type de limite, c'est bien sûr le droit supranational, dont le droit et directives européennes, mais aussi les conventions de l'OIT que nous avons pu ratifier à cet égard. Bien évidemment, un mauvais exemple de réforme nous a été donné par le CNE en 2005, puisque le CNE était contraire à certaines conventions de l'OIT que nous avions ratifiées. Et nous avons mis des entreprises en bien mauvaise posture en les engageant dans certaines directions et ensuite en leur disant que les garanties, ou en tout cas la réglementation qui les concernait, étaient plus souples que celles qui en fait s'exerçait réellement. Alors, un autre aspect, et c'est pas l'un des moindres, c'est pour ça je tenais à ce qu'il soit présent dans cette présentation, c'est qu'évidemment, il faut éviter que la négociation collective, qui est le fait de représentants de salariés et de représentants des entreprises n'aboutissent à des externalités défavorables pour la collectivité ou se fassent sur le dos de la collectivité en termes financiers, bien sûr, et puis en termes d'accès à l'emploi des chômeurs ou des personnes qui rentrent sur le marché du travail, dont les jeunes. Alors, cette approche nécessite, cela va de soi, une définition des contours de l'ordre public social, de ce qu'on appelle les principes, j'y reviendrai quand je parlerai de la loi El Khomri, et puis nécessite de réfléchir à l'autonomie respective des différents niveaux de conventions, de normes, quelle est l'autonomie de l'accord d'entreprise par rapport à l'accord de branche, quelle est l'autonomie du contrat de travail par rapport au tissu conventionnel, etc. Alors, cette stratégie nous semble présenter le gros avantage de concilier à la fois la protection des travailleurs, et cette protection des travailleurs est garantie par le fait que cette élaboration du tissu conventionnel se fait par la signature d'accords collectifs majoritaires, bien sûr. Majoritaire, ça veut dire signé par des représentants légitimes du personnel, légitimés par le résultat d'élections et qui peuvent être sanctionnés par les élections ensuite. Et puis, garantit aussi une meilleure efficacité économique. Pourquoi ? Parce que la signature du chef d'entreprise ou de son représentant garantit bien sûr que l'entreprise y trouve son compte. Et dans cette approche, l'accord majoritaire qui a trouvé vraiment son expression très forte dans les faits par la loi du 20 août 2008 qui a été voulue dans ce domaine-là par une position commune signée côté salarié par les deux principaux syndicats, CGT et CFDT, l'accord majoritaire trouve là bien sûr une opérationnalité vraiment amplifiée. Alors la réponse, un obstacle ou une difficulté est souvent évoquée, et les petites entreprises dans tout cela, les petites entreprises qui sont évidemment un désert en termes de présence syndicale. Eh bien, pour les petites entreprises, il existe un arsenal qui supplée à l'absence syndicale, un arsenal qui généralement a été élaboré par les partenaires sociaux eux-mêmes, les procédures du mandatement qui ont été créées par les partenaires sociaux, par l'accord interprofessionnel du 31 octobre 1995, et puis les accords d'application directe qui ont trouvé une expression très très forte dans le cadre des lois Aubry à la fin des années 90. Qu'est-ce que ça veut dire, accord d'application directe ? Ça veut dire qu'un accord avec différentes modalités d'application peut être négocié au niveau de la branche et mis en œuvre de façon automatique ensuite dans les entreprises concernées. Alors dans cette approche, nous sommes très très réservés sur une procédure qui est fréquemment évoquée, fréquemment avancée comme étant positive, le référendum. Dans ce domaine-là de la démocratie sociale, il nous semble qu'il en va de même que dans la démocratie politique, le référendum est quelque chose qui présente des dangers réels. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand un référendum n'est pas organisé conjointement par les partenaires sociaux, qui garantit évidemment l'équilibre de l'information qui est fournie aux salariés qui sont appelés à voter. Et donc pour nous, le référendum ne devrait être envisagé que pour vérifier le soutien à un accord majoritaire, si les partenaires sociaux s'entendent pour vérifier cet accord, ou dans le cas de la mise en œuvre, de la mise en application dans une entreprise d'un accord conclu ou bien par mandatement ou bien d'un accord d'application directe. Vous voyez, pour qu'on s'assure que les salariés de l'entreprise sont bien d'accord avec cette démarche, sachant qu'il y aurait déjà eu par la procédure du mandatement au niveau de l'entreprise, mais par un représentant, je dirais, mandaté, ou bien au niveau de la branche pour les accords d'application directe, il y aurait bien eu négociation, donc le référendum ne contournerait pas en quelque sorte la négociation collective. Et puis, il y a un point qui nous paraît très important de souligner, sur lequel je reviendrai aussi, c'est que dans cette approche, nous pensons qu'il faut donner une très grande ambition à ce qu'on appelle en France le principe de faveur. Quand on essaye d'articuler différentes normes l'une avec l'autre. Ça veut dire quoi, une très grande ambition ? Ça veut dire qu'il ne faut pas comparer deux accords par exemple au niveau des ensembles de normes, au niveau de la branche, au niveau réglementaire ou au niveau de l'entreprise, avantage par avantage, point par point. C'est l'économie globale d'un accord qu'il faut considérer. Et si les partenaires sociaux dans une entreprise s'entendent à perdre éventuellement sur certains plans, ça veut dire qu'ils gagnent sur d'autres. Les accords de maintien de l'emploi, d'ailleurs, s'inscrivent tout à fait dans cette logique, puisque dans les accords de maintien de l'emploi, il est possible de baisser la rémunération mensuelle de salariés, mais contre des garanties d'emploi. Et on comprend bien pourquoi, au niveau interprofessionnel, les syndicats signataires de l'ANI du 11 janvier 2013 ont considéré que les partenaires sociaux, y compris les représentants des salariés, pouvaient y trouver avantage. Pourquoi c'est un accord possiblement gagnant-gagnant. Mais ça amène quand même à considérer que le principe de faveur, vous voyez, doit être vu, perçu, appréhendé de façon globale et non pas point par point, avantage par avantage. Néanmoins, cette stratégie appelle évidemment un renforcement de la représentativité effective des syndicats, un renforcement de leur audience. Il est clair qu'on a vu des changements très importants opérés par la loi du 20 août 2008. On peut penser que la loi El Khomri renforcera ces changements ou accélérera ces changements. La loi du 20 août 2008, je vous le rappelle, c'est qu'un accord n'est valide que si du côté des représentants des salariés, il est représenté par des syndicats ayant obtenu au moins 30% des voix aux précédentes élections professionnelles. Ça avait été voulu donc par la position commune signée par la CGT et la CFDT. La loi El Khomri, c'est une préconisation qu'on faisait depuis très longtemps avec Jacques Barthélémy, renforce cela, puisqu'elle dit qu'une majorité, c'est 50%. C'est 50%. Alors pourquoi était-il si important de passer à 50%? Bien parce que entre 30 et 50%, il y avait le possible exercice du droit d'opposition, c'est-à-dire qu'un accord signé par des représentants des salariés, ayant eu au moins 30% des voix aux dernières élections professionnelles, pouvait être invalidé par l'exercice du droit d'opposition. Ça entraînait beaucoup d'incertitudes, en quelque sorte, dans l'élaboration du tissu conventionnel. Et cette incertitude a heureusement maintenant disparu. Alors, tout ça va de pair avec le fait que pour nous, il faut trouver, et on en propose beaucoup, des procédures pour favoriser la syndicalisation et pour former les délégués syndicaux, parce que c'est pas le moindre des paradoxes que de considérer que les représentants des comités d'entreprise bénéficient de crédits d'heures, de formation, ce qui n'est pas le cas des délégués syndicaux qui pourtant ont la charge de la négociation et de la signature d'accords collectifs. Alors, pour vous illustrer un peu ce que ça pourrait entraîner, vous voyez, prenons différents domaines, je ne vais peut-être pas tous les prendre. Dans le droit de la durée du travail, l'idée, ça serait que, évidemment, dans le respect des normes européennes, entre autres sur les durées du travail maximales, eh bien, des accords pourraient déroger à toute autre norme, entre autres en ce qui concerne la majoration des heures supplémentaires. Alors ça a été repris en partie dans la loi El Khomri, mais de fait c'était même assez présent dans la loi Fillon du 4 mai 2004, ce que certains partenaires sociaux avaient oublié. Concernant les seuils sociaux, il nous semble vraiment très pertinent d'autoriser par accord collectif les partenaires sociaux à suspendre les obligations associées aux seuils sociaux. Je rappelle que ces obligations sont parfois lourdes, hein, 65 obligations par exemple associées au franchissement du seuil de 50 salariés en France. Ce sont des choses très 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 fortes. Et il est clair qu'une entreprise, je vais caricaturer un peu en simplifiant les choses, mais de 49 salariés qui a un marché incertain, une chance possible qui se présente, hésitera à franchir le pas si elle se dit que ça l'amènerait à embaucher, à passer le seuil de 50, à créer un comité d'entreprise, etc. Enfin bon, introduire un système de participation. Et si ça ne marche pas, le retour à 49 par effet de cliquet ne lui enlèvera pas ses obligations. Eh bien, ce que nous disons, c'est que si les partenaires sociaux pensent que c'est leur avantage partagé de surseoir aux obligations liées au déclenchement de ces seuils sociaux, c'est leur histoire, c'est leur responsabilité, ça revient à leur responsabilité. Pareil pour le traitement des conflits. On connaît, on y reviendra peut-être dans la discussion, on connaît le drame du fonctionnement de nos prud'hommes. 9 mois de délai moyen en France et beaucoup plus en région parisienne entre la saisine d'un prud'homme et la décision de première instance. 15 mois s'y appelle, 60% de cas de passage en appel, et dans les deux tiers des cas de passage en appel, une invalidation totale ou partielle de la décision de première instance. On vit dans un monde d'une instabilité complète pour les entreprises et pour les salariés. Ce que nous disons ici, c'est que les partenaires sociaux au niveau de la branche pourraient contourner le monopole des prud'hommes en organisant, par exemple, des instances de résolution de conflits qui seraient des instances arbitrales. Pareil pour les IRP, pareil, bon, etc. Donc, dans beaucoup de domaines, nous préconisons vraiment un renforcement dans tout ce qui ne ressort pas des principes, en quelque sorte, et du droit supranational. Nous proposons un renforcement très fort du pouvoir de décision des partenaires sociaux. Alors, la question se pose évidemment de façon cruciale de l'articulation des normes. Après avoir peut-être péché par naïveté pendant pas mal d'années, en pensant que le niveau interprofessionnel pouvait jouer un rôle très très fort, et je pense que nous avions convaincu beaucoup de décideurs politiques dans ce domaine-là, nous pensons que ça n'est plus le cas. Le niveau interprofessionnel est un niveau qui est vain, à notre avis, pour des réformes courageuses. Et ce constat s'explique par le fait que les partenaires sociaux ont des positions impliquées dans certains domaines, et donc ça leur rend très difficile la réforme de ces domaines. Et deux exemples peuvent en être tirés. L'échec, par exemple, de la négociation sur le dialogue social, eh bien, il est clair que quand des syndicats ont beaucoup de mandants qui sont élus, des CHSCT, aboutir à une réforme courageuse qui fusionne ces structures, c'est pas forcément se rendre très sympathique à sa base militante. Et puis, dans le domaine, une autre illustration, c'est l'accord qui avait été signé par les syndicats sur la formation professionnelle à la fin de l'année 2013 et qui a donné lieu à la loi de mars 2014. Eh bien, cet accord a été d'une ambition très très restreinte, très mesurée, et on le comprend bien, puisque nous savons tous que la formation professionnelle est aussi l'une des sources de financement des partenaires sociaux. Le rapport Perruchot l'avait bien montré. On ne peut pas demander à des acteurs qui ont une position aussi impliquée, évidemment, d'être très courageux dans cette réforme. Voilà. Alors, néanmoins, ce niveau interprofessionnel va connaître un tremblement de terre dans les semaines qui viennent. Tremblement de terre lié au décompte de l'audience des syndicats au niveau national. Très probablement, la CFDT va devenir le premier syndicat de France. En tout cas, c'est les signes qu'on peut avoir. Bon, la Direction générale du travail fera ce décompte, mais la probabilité est très forte que la CFDT devienne le premier syndicat de France et détrône dans ce rôle la CGT. Il n'empêche que malgré cette position très très forte d'un syndicat réformiste, important et réformiste, le niveau interprofessionnel en termes décisionnels n'est pas le niveau pertinent. Alors, articulation des normes, nous allons maintenant depuis 2-3 ans un petit peu plus loin que ce que nous proposions auparavant, et ce un petit peu plus loin a été repris dans pas mal d'autres travaux, par exemple le rapport Combrexelle, puis dans la logique de la loi El Khomri. Il consiste à dire que la norme légale doit devenir subsidiaire de la norme conventionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se pose même pas la question. Quand tu existes une norme dans un domaine, une norme conventionnelle, cette norme conventionnelle est la norme qui s'impose, la norme légale ne s'imposant qu'à défaut. Vous voyez, donc on quitte la logique de dérogation dans cette proposition pour passer à une logique de subsidiarité de la norme légale par rapport à la norme conventionnelle. Toujours, bien sûr, dans le respect des principes et du droit supranational. Alors, c'est la logique qui a été reprise dans la loi El Khomri, on s'en félicite, on en est très très content. Néanmoins, la mise en œuvre de cette logique nécessite une réécriture du Code du travail. Réécriture du Code du travail, pourquoi? Parce qu'il faut définir les limites des principes pour éviter que les partenaires sociaux pensent pouvoir décider dans des domaines dans lesquels ils ne peuvent pas réellement décider. C'est complexe. C'est quelque chose de très complexe. Cette réécriture a été faite dans le seul domaine du droit de la durée du travail, n'a pas été faite dans les autres domaines. Et donc, dans les faits, la loi El Khomri, pour cet aspect-là, le fameux article 2 de la loi El Khomri qui avait mis tant de gens dans la rue, eh bien, pour cet aspect-là, la loi El Khomri n'est opérationnelle que dans le domaine du droit de la durée du travail. Et puis, pour être effectif, évidemment, effective, cette approche appelle une transformation radicale de la structuration par branche. Je rappelle qu'en France, nous avons environ 700 branches professionnelles censées négocier, élaborer des conventions collectives, etc. Et l'idée, ça serait de passer de ce nombre de 700 à environ 100 ou 150 branches. En Allemagne, il n'y aurait qu'une centaine de branches. Et évidemment, la réalité du dialogue social tient aussi à cela. On a en tête les grandes branches qui ont les moyens de négocier, d'avoir des expertises, de développer un travail de fond, mais dans une grande majorité des branches, évidemment, ça n'est pas le cas. Alors, dans ce domaine-là, je dirais que le travail le plus approfondi est évidemment le rapport Combrexelle. L'articulation maintenant entre convention d'entreprise et convention de branche, ce que nous préconisons, c'est d'aller plus loin que ce vers quoi on était allé, entre autres, par la loi la loi Fillon du 4 mai 2004. La loi Fillon du 4 mai 2004, qui était dans ce domaine, il faut le rappeler, la mise en œuvre d'une position commune signée par les partenaires sociaux en juillet 2001. Et parmi les partenaires sociaux signataires, il y avait le syndicat Force Ouvrière. Hein. Donc la loi du 4 mai 2004 permettait déjà à un accord d'entreprise de déroger à un accord de branche, sauf dans deux domaines. D'abord, les cinq domaines qui relèvent de l'ordre public professionnel, qui fondent l'identité de la branche, les minima salariaux, les catégories professionnelles, les normes d'égalité hommes-femmes, etc. Et puis, ça n'était pas possible de déroger par un accord d'entreprise, un accord de branche, quand l'accord de branche et expliciter que ça serait le cas, que ça ne serait pas possible donc à l'accord d'entreprise de déroger. C'est ça qui avait été voulu par les partenaires sociaux en juillet 2001 et mis en œuvre par la loi Fillon du 4 mai 2004. La loi El Khomri va plus loin comme nous le préconisions. Elle va plus loin comment ? Eh bien en disant que l'accord d'entreprise pourra déroger, que l'accord de branche ne peut pas empêcher l'accord d'entreprise de décider, et que les seules limites de l'accord d'entreprise, outre bien sûr les principes et le droit supranational, c'est les cinq domaines qui fondent l'identité de la branche, hein, qui ressortent de l'ordre professionnel concernant la branche. Néanmoins, il ne faut pas se faire d'illusions, cette possibilité de déroger par accord d'entreprise un accord de branche restera dans les faits faiblement mobilisée. Ça l'a été très faiblement depuis 2004. Alors l'une des raisons, c'était la non-rétroactivité, c'était simplement les nouvelles conventions de branche auxquelles un accord d'entreprise pouvait déroger, mais même au-delà de cette non-rétroactivité, avec le recul, on peut penser que d'autres raisons sont fortes. Il faut beaucoup de courage à des syndicalistes d'entreprise pour aller à l'encontre de ce qui a pu être signé au niveau de la branche. C'est ce qui explique, à notre avis, la faible mobilisation de cette possibilité de déroger. Et puis, il y a un domaine qui est essentiel, c'est l'articulation entre conventions, et en particulier conventions d'entreprise, et puis contrats de travail. Et ce que nous disons avec Jacques Barthélémy, c'est qu'il faut faut renforcer les possibilités pour l'accord d'entreprise de mordre dans l'autonomie du contrat de travail. Et ce qui nous avait amené à penser cela, c'est l'observation de l'Allemagne. En Allemagne, en 2009, le PIB a diminué de 6%, l'emploi n'a pas diminué, le chômage n'a pas augmenté. En France, le PIB a diminué de 3%, il y a eu 500 000 destructions d'emplois et une augmentation du taux de chômage de 2 points. Alors bien sûr, la mobilisation de dispositifs comme le chômage partiel a été beaucoup plus forte en Allemagne qu'en France, mais au-delà de ça, le principal facteur, c'est la mobilisation d'accords qui étaient signés dans les branches ou dans les entreprises, qui permettaient de déclencher temporairement des baisses de salaire et la durée du travail pour passer, si j'ose dire, la mauvaise passe. Alors quand on avait observé ça, on avait fait plusieurs articles qui avaient été repris, qui avaient abouti à des propositions comme les accords compétitivité-emploi proposés par, à l'époque du quinquennat de Sarkozy, et puis ça s'était éteint et c'est revenu dans la négociation collective et dans le droit réglementaire par ce qu'on a appelé les accords de maintien de l'emploi prévus par les partenaires sociaux dans la nuit du 11 janvier 2013 et introduits donc dans la loi du 14 juin 2013. Néanmoins, ça appelle bien sûr cette possibilité pour l'accord collectif d'entreprise de mordre dans l'autonomie du contrat de travail, de définir plus précisément les composantes du contrat de travail. Et il nous semble que ces composantes du contrat de travail doivent être définies, c'est ce qui est exprimé dans ce graphique. À l'heure actuelle, dans le contrat de travail, il y a ce qu'on peut appeler des éléments secondaires auxquels qui peuvent être modifiés de sa propre autorité par le chef d'entreprise, et puis des éléments dits substantiels, vous voyez, c'est les parties en verte, qui demandent pour être modifiés l'accord individuel du salarié. Et ce que nous proposons, c'est une distinction un petit peu plus subtile, qui garde bien sûr la composante des éléments secondaires, mais qui, dans les éléments substantiels, essaie de distinguer les éléments substantiels eux-mêmes secondaires, et puis les éléments substantiels absolus, les éléments substantiels secondaires pouvant être modifiés par accord collectif, et les éléments substantiels absolus ne pouvant être modifiés qu'avec l'accord individuel des salariés. Donc pour être précis, par exemple, il est clair qu'on ne peut pas changer de catégorie professionnelle, même par accord collectif, un salarié, transformer un ingénieur en agent de nettoyage. On ne peut pas modifier non plus son salaire horaire. Mais on doit pouvoir modifier sans s'exposer à un risque contentieux fort sa rémunération mensuelle, si on modifie son temps de travail, comme c'est le cas en Allemagne. Alors en Allemagne, quand des accords prévoient qu'en situation difficile, on peut baisser la durée du travail et les salaires, le salarié qui n'est pas d'accord, eh bien, voilà, il prend ses responsabilités, il quitte l'entreprise. La force contractuelle de l'accord collectif est très grande. En France, ça n'était pas possible. Ça l'est depuis la loi du 14 juin, à l'initiative des partenaires sociaux, donc dans la nuit du 11 janvier 2013. Néanmoins, les partenaires sociaux, et en particulier les représentants des salariés, un peu effrayés par leur propre audace, ont mis des verrous qui ont abouti à ce que cette disposition soit très peu utilisée. Moins de 15 accords de maintien de l'emploi en France. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a voulu mettre... J'évoque ces verrous pour vous illustrer comment on peut dénaturer ou perdre une réforme intéressante par le fait de la verrouiller de tous les côtés. Il a été décidé que ce type d'accord ne pouvait être conclu que quand l'entreprise connaît une situation conjoncturelle difficile. Et c'est évidemment totalement absurde. Il est toujours bon de négocier à froid, de déclencher à chaud, ça va de soi, mais de pouvoir négocier à froid. Et en Allemagne, ce type d'accord est négocié à froid et ensuite mis en pratique à chaud par les signataires de l'accord, signataires eux-mêmes de l'accord. En France, il fallait même que ce soit négocié à chaud. Et quand la situation est chaude, on n'est pas dans une situation sereine où on peut faire appel à des expertises, où on peut... Voilà. Donc c'était une première difficulté. Majorité renforcée, ça évidemment c'est une bonne chose. Validité de 2 ans maximum, c'était sans doute un peu court, mais ça ne pouvait pas non plus concerner les salaires inférieurs à 1,2 SMIC. Il ne s'agit pas d'aller à l'encontre de la disposition du SMIC, qui est un salaire horaire. On ne pouvait pas baisser le salaire mensuel tout en gardant le salaire horaire. On ne pouvait pas baisser le salaire mensuel d'un salarié dont le salaire était inférieur à 1,2 SMIC, même si on baissait son temps de travail. Vous imaginez la difficulté de négociation dans une entreprise où des personnes sont proches du SMIC, d'autres personnes sont loin du SMIC. Enfin, ça aboutit à des complexités très très grandes, surtout qu'on ne sait pas toujours si on est au SMIC ou pas, compte tenu de primes qui sont intégrées dans le calcul de l'assiette du SMIC. Et puis enfin, quand un salarié refusait l'accord, eh bien, le chef d'entreprise devait le licencier pour motif économique individuel. Donc même dans une grande entreprise de plus de 50 salariés, s'il y avait plus de 10 salariés qui refusaient l'accord, le chef d'entreprise n'était pas exposé au risque de devoir engager un licenciement collectif. Mais néanmoins, Il devait engager un licenciement économique individuel, si bien que pour les PME, ça représentait un avantage très très faible, vous voyez, cette avancée, parce que licenciement économique individuel, le salarié, bien sûr, peut ensuite aller dénoncer ce licenciement. Donc 15 accords de maintien de l'emploi seulement qui ont été signés en France. Donc voilà pour, en gros, le gros de l'architecture de réforme du droit social que nous préconisons Jacques Barthélémy et moi depuis déjà pas mal d'années, qui est bien passé dans notre droit du travail, mais enfin le chemin à faire est encore très très important. Et je voudrais juste finir par une dernière section sur le droit de l'activité professionnelle. Le droit de l'activité professionnelle, donc, qui a donné lieu à notre dernier ouvrage, est lié à ce qu'on a souvent appelé l'ubérisation de l'économie. Alors on vit depuis quelques années l'émulsion d'une révolution technologique qui est associée au TIC, aux technologies de l'information et de la communication, puis à l'économie numérique, qui bouleverse évidemment les modes de vie et de travail. Et ça, cette révolution technologique a fait naître deux types d'anxiété principales. Première anxiété, une anxiété quantitative. Ah, ça va détruire énormément d'emplois, le chômage va augmenter dans des proportions considérables, il n'y aura plus assez de travail pour tout le monde. Ce caractère anxiogène est sans doute particulièrement fort dans un pays comme la France, où le taux de chômage massif est toujours massif. Dans d'autres pays au plein emploi, cette anxiété est moins présente. Mais ce qui est remarquable, et la littérature économique, je renvoie là à un fantastique article de Mokir et de ses co-auteurs qui a été publié en 2015, nous montre que cette anxiété a été présente à toutes les révolutions technologiques. Et à chaque fois, cette anxiété a été démentie. Cette anxiété a été démentie, pourquoi ? Parce que de nouvelles activités ont émergé qui ont permis, en quelque sorte, de créer les emplois qui disparaissaient ailleurs. Et je reprends ici un exemple qui était donné par Alfred Sauvy en 1980, l'exemple du porteur d'eau. Qui regrette la disparition du porteur d'eau ? Alfred Sauvy nous rappelle que dans une ville comme Paris, qui comptait 1 million d'habitants environ au tournant du 19e, 20e siècle, eh bien, il y avait 20 000 porteurs d'eau. Les canalisations et les citernes ont fait disparaître ces porteurs d'eau, et comme la technologie a fait disparaître le poinçonneur des lilas, on ne peut que s'en féliciter, bien évidemment. Néanmoins, cette transformation, destruction d'emplois dans certaines activités, parce qu'ils peuvent être faits par la machine, et création d'emplois dans d'autres activités naissantes, ça implique ce qu'on appelle, ce qu'Alfred Sauvy appelait, un reversement. Et ce reversement nécessite une efficacité phénoménale de tout notre système de formation, et en particulier du système de formation professionnelle. Et à l'aube, en quelque sorte, du choc que nous allons connaître avec cette révolution technologique, l'augmentation de l'efficacité de notre système de formation professionnelle est quelque chose de crucial si on ne veut pas vivre une époque très très douloureuse où des personnes dont l'emploi aura été détruit ne seront pas en mesure ou suffisamment qualifiées pour aller dans les activités en développement. Et bien sûr, l'erreur à ne pas reproduire à cet égard, c'est de faire ce qu'on a fait en France avec la disparition des mines ou de la sidérurgie dans les années 60-70, sur le développement à l'extrême de systèmes de pré-retraite coûteux. Hein, on a fait partir des gens jusqu'à 45 ans, hein, quelquefois, en retraite. Très, très coûteux et destructeur sur le plan social. Néanmoins, un point qui n'est pas inutile de souligner, j'ai mis ici, vous voyez, le taux de croissance de la productivité horaire du travail depuis 1890 sur différentes sous-périodes dans les principaux pays industrialisés. Et ce que vous voyez, c'est que ces gains de productivité n'ont jamais été aussi faibles. Donc pour l'instant, la révolution technologique ne détruit pas encore ces emplois. C'est une crainte prospective pour le futur. Il faut s'y préparer. En tout cas, elle n'est pas encore observée dans les faits. Jamais les gains de productivité horaires n'ont été aussi faibles dans les principaux pays industrialisés. Alors la deuxième anxiété est une anxiété qualitative. C'est l'idée que l'emploi indépendant lié à l'ubérisation va se développer au détriment de l'emploi salarié. Et évidemment, pourquoi c'est anxiogène ? Parce que l'emploi indépendant bénéficie de protection affaiblie par rapport aux salariés. Voilà, je n'ai plus que pour 3 minutes, c'est les derniers slides. Et entre autres, pas de protection chômage. Entre autres, pas de protection parfois en cas de perte d'activité. Vous voyez, un conducteur d'Uber peut être déconnecté par Uber sans possibilité de recours, alors que cette déconnexion peut s'assimiler à un licenciement. Cette anxiété est démentie par les chiffres ici encore. La proportion d'emplois salariés est stable, voire continue à augmenter dans 31 des 34 pays de l'OCDE pour lesquels on a développé notre analyse statistique. Et la proportion d'indépendants ne se développe que dans 3 pays sur les 2 dernières décennies. La France, depuis la création du statut de l'auto-entrepreneur, mais un tout petit peu. Le Royaume-Uni, un tout petit peu plus, 1,3 points en 20 ans. Et de façon un petit peu plus consistante, les Pays-Bas. Bon, c'est représenté par cette courbe, mais je n'ai pas le temps de la commenter. Et alors, qu'est-ce que signifie l'ubérisation de l'économie ? Ben, ça signifie que se développent des emplois indépendants de nature très diverse. D'abord, des emplois indépendants peu qualifiés. On peut les appeler les prolétaires de l'ubérisation. Et justement, le conducteur d'Uber en est un exemple. Et ce prolétaire de l'ubérisation est amené à disparaître. Amené à disparaître comme quantité d'emplois salariés. La voiture autonome fera disparaître dans 5-10 ans le conducteur d'Uber. Mais plein d'emplois salariés sont dans cette situation. Et puis à l'autre extrême, l'ubérisation, ou en tout cas le développement d'emplois indépendants, concerne des emplois très qualifiés, exercés par des travailleurs très diplômés, très autonomes, par exemple dans les activités de conseil. Et on observe ça dans tous les pays industrialisés. Et ces travailleurs font un usage intensif des outils de mobilité, vivent une interpénétration totale de leur vie personnelle et professionnelle et ont des modes de travail qui sont très proches de ceux des salariés les plus qualifiés. Et je n'ai plus que deux slides. La solution actuelle, évidemment, n'est pas satisfaisante. Pourquoi elle n'est pas satisfaisante ? Ben parce qu'on voit que des travailleurs soumis à une même dépendance économique bénéficient de droits différents, selon que cette dépendance économique est aussi une dépendance, une subordination juridique concrétisée par un contrat de travail, le cas du salarié, ou un travailleur indépendant. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'il faut trouver un moyen de couvrir, en quelque sorte, le travail indépendant, en évitant le piège de vouloir le faire rentrer à toute force dans la case emploi salarié qui a été conçue dans le cadre de la civilisation de l'usine et qui est évidemment inadaptée aux formes de souplesse et de flexibilité économique de certaines activités économiques. Et donc notre proposition, par rapport à des propositions de laisser-faire qui sont vaines, pourquoi ces propositions de laisser-faire sont vaines ? Parce qu'on voit que les tribunaux, un à un, requalifient les emplois indépendants en emploi salarié. C'était le cas à Londres encore en octobre dernier pour des conducteurs d'Uber, c'était le cas en Californie, ça sera très probablement le cas en France sur les 2 prochaines années, une procédure est en cours. Et nous disons-nous qu'il faut changer notre droit pour le rendre plus couvrant avant cette perte en quelque sorte de matière par l'extension au travail indépendant de la catégorie emploi salarié, en construisant un droit de l'activité professionnelle qui associe des droits à la subordination économique et non plus seulement à la subordination juridique concrétisée par l'existence d'un contrat de travail. Et dans l'élaboration de ce droit de l'activité professionnelle, bien évidemment, les partenaires sociaux ont pour nous un rôle central à jouer pour définir les niveaux de dépendance économique et les déclenchements de droits qui peuvent être associés, le niveau d'autonomie et des droits qui peuvent être associés. Voilà. Et les derniers slides, résumer tout ce que j'ai dit. Simplement, je n'ai pas parlé d'autres domaines de réforme qui sont abordés dans nos travaux, comme par exemple le SMIC les prud'hommes où on va très loin dans les propositions que nous faisons pour rendre la justice beaucoup plus effective dans ce domaine-là et protectrice dans ce domaine-là. Voilà.